Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Donc nous voulons nous interroger aujourd'hui sur les jeunes, l'école et la religion à propos et autour d'un livre qui vient de paraître aux éditions Bayard sous la direction de Céline Béraud et Jean-Paul Willem. Donc nous recevons Jean-Paul Willem. Jean-Paul Willem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des études et directeur de l'Institut européen en sciences des religions. Et donc vous avez participé à une étude européenne qui a été faite entre mars 2006 et mai 2009, programme REDCO, pour essayer de mieux comprendre auprès des adolescents entre 14 et 16 ans ce qu'ils pensaient de la religion, comment est-ce qu'ils imaginaient que cette religion pouvait leur apporter quelque chose quant à la compréhension du monde. Alors, cette enquête donc est européenne et vous mettez bien en évidence, vous et votre équipe, qu'il y a une forme de consensus et de diversité au niveau européen. Consensus pour renforcer la connaissance des faits religieux à l'école et diversité parce que vous distinguez, et je voudrais que vous nous en disiez un peu plus, trois types d'enseignement du fait religieux en Europe. Soit un enseignement confessionnel des religions dans l'école publique, soit un enseignement non confessionnel des religions, soit un enseignement transdisciplinaire des faits religieux, et ça ne concerne, si j'ai bien compris, que la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces trois types d'enseignement des religions et ou du fait religieux en Europe ?
Dans de nombreux pays d'Europe, il y a des enseignements confessionnels des religions dans les écoles publiques. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que pour ce qui concerne la religion, on offre aux élèves, selon leurs appartenances, un cours de religion catholique, un cours de religion protestante ou un cours d'une autre religion. Également, comme c'est par exemple le cas en Belgique, dans les écoles officielles belges, un cours de morale non confessionnelle pour les élèves et les familles qui n'ont pas d'identification religieuse et qui préfèrent une morale non religieuse.
Alors ce premier modèle-là dont vous parlez, c'est le modèle qui semble être plutôt dominant en Europe et qui concerne l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la Grèce, la Belgique et l'Irlande, et j'en oublie certainement.
Voilà. Et donc, dans ce modèle, il y a une articulation des autorités académiques et des autorités religieuses pour l'accréditation du professeur de religion. Ou si je prends le cas de l'Allemagne, où les professeurs de collège enseignent deux disciplines, on peut être professeur de mathématiques et professeur de religion catholique, professeur d'allemand et professeur de religion protestante, avec donc les deux disciplines. Donc c'est une matière ordinaire dans le programme d'enseignement. Donc ça, c'est le premier grand cas de figure. Mais nous sommes les deux conséquences de ce premier modèle, c'est qu'il y a séparation des élèves selon leur religion ou leur absence de religion, et que c'est une démarche, même si, comme c'est le cas dans plusieurs pays, comme par exemple l'Espagne, mais aussi l'Allemagne, aussi la Belgique, il y a une nette différence qui est faite entre la catéchèse diffusée dans les paroisses et le type d'approche de la religion développée à l'école. Mais néanmoins, c'est une approche de la religion à l'intérieur d'une tradition et qui vise à un petit peu cultiver cette tradition, la renforcer, lui donner des éléments historiques et culturels. Mais il faut quand même noter, et c'est d'ailleurs la position des responsables de l'enseignement religieux catholique, pour prendre un exemple précis, ils font la distinction entre la catéchèse dans les paroisses et les familles et ce type d'enseignement de la religion catholique à l'école. Mais néanmoins, ça reste un enseignement confessionnel. Donc le deuxième cas de figure, c'est, et on le rencontre particulièrement dans des pays de l'Europe du Nord.
Danemark, Grande-Bretagne, Norvège,
voilà,
Suisse,
voilà.
Pays-Bas.
Alors, existaient dans ces pays des cours de religion confessionnelle, mais il y a eu une évolution qui s'est opérée et ces cours, il y avait toujours une case qui était prévue, une discipline, ces cours ont évolué vers des cours d'histoire et de culture religieuse.
Donc ils sont assurés par des professeurs des écoles publiques.
Voilà, absolument. Prenons un exemple très précis dans le canton de Zurich en Suisse. On est passé, il y avait des cours de religion catholique, des cours de religion protestante, il y a eu ensuite des cours de religion écuménique, œcuménique et ensuite des cours de culture religieuse, qui a dépassé la sphère du christianisme. En Grande-Bretagne, on est passé de ce qu'ils appelaient une instruction religieuse à une éducation religieuse multiconfessionnelle, prenant en compte les principales religions présentes dans la société anglaise, le christianisme dans ses différentes expressions confessionnelles, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et le sikhisme. Et donc, dans les écoles anglaises, à partir d'un certain curriculum, et les autorités locales, là, dans le système anglais, ont un grand poids, mais il y a un curriculum national qui a été élaboré pour que les élèves aient une approche compréhensive, informée de ces différents mondes religieux. Et dans une approche, je dirais, si je garde sur le cas anglais, assez pragmatique et centrée sur, en fin de compte, mon copain David fait sa bar mitzvah. Qu'est-ce que ça signifie, la bar mitzvah, dans la tradition juive ?
Donc ces cours-là, donc les premiers et les deuxièmes, donc le modèle confessionnel ou le modèle non confessionnel, ces cours-là sont obligatoires, enfin à l'école sont obligatoires.
Alors, dans le premier cas, ils sont optionnels, parce qu'on choisit, enfin, on choisit sa religion, voilà. Son option, mais ils sont obligatoires, ou alors, mais il y a un débat là-dessus, par exemple, en Belgique, par exemple, des témoins de Jéhovah qui ne se reconnaissaient dans aucune des formules proposées, est-ce qu'ils avaient un droit d'exemption ? Et comme c'est toujours compliqué dans le cas belge, la réponse était différente en Wallonie et en Flandre. Bon, je n'entre pas dans le détail. Dès lors qu'il s'agit d'un cours sur les différentes religions, les élèves ne sont pas séparés. Le professeur s'adresse à l'ensemble de la classe et dès lors où il aborde plusieurs religions, il y a une contrainte, je dirais, cognitive et dans l'acte d'enseignement, il ne peut plus les aborder d'un point de vue confessionnel puisqu'il parle à un auditoire multireligieux et qui donc n'appartient pas forcément en majorité à la religion dont il parle. Donc cela nécessite une approche informée par les sciences humaines, mais une approche qui n'exclut pas aussi un enseignement sur les religions comme phénomène social, culturel, historique, mais aussi comme phénomène spirituel. Et notamment dans cette approche anglaise ou dans les pays d'Europe du Nord, c'est aussi la prise en compte du fait religieux dans ses dimensions expérientielles et spirituelles. Et là, on a un trait qui me frappe, c'est que dans un texte anglais définissant les missions de l'éducation scolaire, on note aussi l'aspect non seulement développement physique de l'enfant, mais son développement spirituel. La même chose dans un texte officiel en Grèce, la formation spirituelle ou l'épanouissement spirituel est inscrit dans les définitions de l'éducation scolaire publique.
Alors, troisième modèle qui n'est propre, semble-t-il, qu'à la France, donc qui est une exception française, le troisième modèle, donc, c'est un enseignement transdisciplinaire du fait religieux. Et alors, vous êtes d'autant mieux placé pour en parler que, effectivement, comme je l'ai dit au début, vous êtes directeur de l'Institut européen en sciences des religions. Cet institut, donc, est l'Institut, entre guillemets, Régis Debray, donc suite au rapport de Régis Debray, pour essayer de remettre, réinjecter de l'apprentissage du religieux auprès de nos chers enfants. Et donc, plutôt que de le faire de façon séparée, comme dans tous les autres modèles européens, en France, on a préféré le faire de façon transdisciplinaire et donc l'injecter à petite dose, si on peut dire, dans les différentes matières. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cela, d'une part, et est-ce que cette manière de faire semble pertinente au regard des deux autres modèles européens ?
J'aimerais tout d'abord souligner que par rapport aux deux autres modèles européens qu'on a évoqués précédemment, donc ce qui distingue la France en Europe, ce n'est pas un enseignement neutre, laïque des religions versus enseignement confessionnel, même s'il y a toujours cette opposition, mais c'est important de noter qu'il y a également des approches non confessionnelles de la religion dans ces enseignements dans les pays de l'Europe du Nord notamment, dans le cadre d'une discipline. Et donc le fait de créer une discipline particulière, histoire des religions, culture religieuse, ne signifie pas en soi que ça vire à un enseignement confessionnel. C'est une autre option de voir une discipline particulière, un cours particulier, avec un corps d'enseignants particulier, prendre en charge ce cours. Donc ce qui singularise la France, c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas un cours spécialement dévolu, une discipline avec un corps professoral spécifique dévolu à l'étude des phénomènes religieux. Avant de dire les atouts et les limites de ce modèle, je voudrais souligner l'avancée considérable que représente dans l'école publique laïque française on est décidé, et c'est inscrit dans le socle commun des connaissances et des compétences de juillet 2007, ce n'est plus en fait une option, c'est une obligation pour les professeurs de prendre en compte dans leur enseignement l'effet religieux, les dimensions religieuses dans l'enseignement de l'histoire, du français, des langues étrangères, des arts et même des sciences concernant par exemple théorie de l'évolution et religion. Donc cette demande qui est venue même de l'école publique laïque et de ses professeurs qui constataient que des pans entiers de l'histoire, de la culture devenaient incompréhensibles si on n'expliquait pas les dimensions religieuses de notre histoire, de nos cultures et y compris dans notre langue. C'est inscrit dans les mots, dans les notions. Donc, c'est un peu une révolution. Alors, bien entendu, lorsque Régis Debray, en 2002, a proposé son report suite à une demande du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jack Lang, mais c'est ensuite Luc Ferry qui l'a mise en œuvre et donc il y a eu une continuité politique sur ce sujet. Le défi donc qui s'est présenté, c'est évidemment la mise en œuvre. Alors, une des conséquences a été la création de cet Institut européen sciences et religions qui se veut une institution pont entre l'enseignement universitaire, les recherches au CNRS, dans les écoles des hautes études qui s'effectuent sur le phénomène religieux. Parce que ce qu'on ne prenait peut-être pas suffisamment en compte, c'est que la République française laïque, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, paye pas mal de personnes, en fin de compte, qui professionnellement, avec toute la déontologie de la démarche historique, de la philologie, de la sociologie, de l'anthropologie, étudient les phénomènes religieux, mais qu'il y avait un fossé entre toutes les études sur les religions dans le monde universitaire et par rapport au niveau du secondaire et du primaire. Et donc le souci qu'avec les adaptations pédagogiques, avec un matériel adapté, toutes ces recherches menées à un niveau universitaire soient également prises en compte dans l'enseignement, dans les collèges, lycées et à l'école primaire. Et d'ailleurs, à l'Institut européen en sciences et religions, et en particulier sous l'impulsion de Dominique Borne, actuel président du conseil de direction, qui a succédé à Régis Debray, par exemple, Dominique Borne a développé une action très forte en direction du primaire, en proposant à la documentation française une série de petits ouvrages, par exemple sur les récits de création. Récits de création dans la Genèse, en islam, dans les traditions africaines, dans les mythologies antiques, enfin les différents récits de création. Eh bien, ça marche auprès des élèves et auprès des professeurs d'école. Ça active un peu l'imagination, comment les hommes conçoivent un petit peu la création du monde.
Mais tout cet enseignement-là, il est proposé, c'est ça, aux professeurs qui ont la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Ou alors, il est imposé, enfin, comme l'enseignement du français, de l'histoire, de je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, ça fait partie du socle fondamental. Mais est-ce que cette injection, matière par matière, du fait religieux, il est à la discrétion des enseignants ou il est obligatoire comme d'autres matières?
Il est obligatoire comme d'autres matières, mais il y a deux choses. Il y a l'existence des programmes. Par exemple, au programme d'histoire, il y a deux thèmes très importants, les origines du christianisme, la Méditerranée au XIIe siècle. Alors, voilà deux thèmes qui figurent au programme officiel de l'enseignement de l'histoire, occasion, évidemment, pour aborder en profondeur les faits religieux en traitant ces éléments du programme. J'ouvre une parenthèse, nous sommes actuellement très inquiets de voir que dans la réforme du programme d'histoire, d'après les informations que j'ai reçues, ces deux thèmes que je viens de vous citer ne figurent plus. Et donc, évidemment, cela nous inquiète, car si on a tout d'abord un texte officiel qui dit « il faut enseigner les faits religieux, ça fait partie du socle commun des connaissances et des compétences », si dans les programmes tels qu'ils sont élaborés, il n'y a pas suffisamment d'entrée pour traiter des faits religieux, il y a un problème. Et puis l'autre problème, c'est que ce que me disait une fois le directeur de la conférence des directeurs d'IUFM, nous sommes pour l'enseignement des faits religieux, mais, disait mon interlocuteur, rendez-vous compte, ça fait partie de tous les thèmes transversaux que nous devons enseigner. L'éducation routière, l'éducation sexuelle, l'éducation en matière écologie, environnement, l'éducation sur les faits religieux. Et donc, mon interlocuteur me disait de bonne foi, nous sommes très désireux d'apporter une contribution à l'enseignement sur les faits religieux, mais ça fait partie des thèmes transversaux. Et là,
Parmi d'autres, vous voulez dire.
Voilà, parmi d'autres. Je vous en ai donné quelques exemples, il y en a une douzaine. Bon. Et donc là, on se heurte à l'importance du cloisonnement disciplinaire dans l'enseignement scolaire français, qui a un certain nombre d'avantages d'atouts, mais qui pour un thème transversal, Et la troisième, évidemment, l'inévitable dimension humaine. Il y a des professeurs que ces aspects passionnent, qui vont y consacrer. Je pense notamment des professeurs de français aussi. Certains sont très, très motivés, incluent des textes, différents auteurs religieux. Mais certains professeurs sont gênés par ce sujet ou ça ne les intéresse pas. Et donc, ils vont faire d'autres choix. Il faut respecter la liberté des professeurs. Un professeur, il faut qu'il ait sa marge d'initiative. Je suis le premier à le dire. Mais néanmoins, évidemment, un professeur pour qui c'est pas du tout sa tasse de thé, il va tout faire pour mettre ça en fin de programme et ne pas aborder de façon sérieuse les faits religieux.
Nous allons observer une petite page musicale avant de reprendre notre entretien.
Bernard Buffet est de ces peintres qui ont connu très jeune un succès fulgurant, puis ont été boudés par la critique. Il a été reconnu à juste titre comme un peintre majeur du XXe siècle par l'Académie des Beaux-Arts et élu membre dans la section peinture en 1974. Écoutez notre émission en compagnie de l'historienne de l'art Lydia Arambourg, réalisée dans la galerie Maurice Garnier. L'émission Bernard Buffet, peintre de la solitude, est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Alors, je voudrais en venir maintenant qu'on a fait un portrait un peu général de l'enseignement comme ça du religieux en Europe à donc ce sondage, cette enquête qui a été faite dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, vous reprenez dans ce livre « Les jeunes, l'école et la religion » différents éléments. Alors, je voudrais que vous nous disiez un peu plus ce qu'il en est de la croyance ou plutôt de l'idée que les jeunes se font de la religion. Alors j'ai noté 2-3 points et j'aimerais que vous me disiez un peu, 1, ce qu'il faut en penser, et 2, si les jeunes français sont différents ou pas différents des autres jeunes européens. Donc 59%, dites-vous, des jeunes français interrogés pensent que la religion les aide à mieux comprendre le monde. Et 82% que la religion a une grande importance dans l'histoire. Quant à la question de la laïcité, alors je ne sais pas comment il faut dire ça comme ça, mais enfin, disons que 78% des jeunes en question pensent que les élèves devraient pouvoir porter des signes religieux discrets à l'école. Alors, quelles leçons avez-vous tirées de ce rapport, de ce lien que les jeunes français entretiennent avec la religion? Et est-ce que ces jeunes français, vis-à-vis de cette question-là, sont différents des jeunes européens?
Les jeunes français, tout d'abord, une petite majorité continue à s'identifier à une religion parmi cette tranche d'âge, 14-16 ans. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a une presque moitié-moitié, une autre moitié qui ne s'identifie pas à une religion, qui se déclare sans religion, même s'ils ont eu une formation religieuse antérieure. Bon, ça correspond aux données que l'on connaît sur les attitudes religieuses des différentes générations en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc là, c'est pas tellement une surprise.
Je fais un petit bémol parce que vous le faites vous-même dans un de vos livres. Le fait de se déclarer sans religion ne veut pas dire sans aucune religion, mais sans une religion particulière.
Absolument.
Donc c'est plus un effet de flottement, sans doute, qu'un effet de désidentification. Enfin.
Absolument. Évidemment, c'est un point important car c'est plutôt une distanciation par rapport aux formes les plus reconnues du religieux institutionnalisé. Et puis, il faut aussi resituer ça. Ce sont des adolescents, 14-16 ans. Et donc, au moment de l'adolescence, on traverse toutes sortes de questions, de remises en question. Donc ça, on ne l'oublie pas. Néanmoins, et il faut reconnaître, ça a été pour nous une très bonne surprise, c'est que les élèves français considèrent, dans leur majorité, qu'il est normal, sain et nécessaire que l'on aborde l'étude des phénomènes religieux à l'école. Ça, c'est un point quand même très très important. Autrement dit, il plébiscite le rapport de Bray, mais on avait plus jusque-là entendu le point de vue des enseignants, le point de vue de différentes familles de pensée. Nous manquait le point de vue des élèves. Donc ça, ça a été très très positif. Le deuxième point extrêmement positif, et même c'est le point, je dirais, qui m'a le plus intéressé, c'est que les élèves français ont bien compris que si on parle de la religion à l'école, on n'en parle pas n'importe comment, on en parle d'une certaine manière. D'une part, ils sont extrêmement attachés à la neutralité de l'enseignant. On a aussi des exemples dans des enquêtes qualitatives que les élèves, même peuvent prendre plaisir à prendre l'enseignant en défaut par rapport à la neutralité, y compris dans le vocabulaire qu'il emploie.
C'est l'exemple que vous citez sur Saint-Paul.
Voilà.
C'est-à-dire, effectivement, est-ce que le fait de dire Saint-Paul veut dire qu'on est soi-même catholique ou est-ce que c'est juste la reconnaissance d'un titre ?
Exactement. Et donc, il y a une hypersensibilité des élèves et une professeure d'histoire disait, évidemment, les élèves l'interpellaient, mais oui, madame, vous dites ça parce que vous êtes chrétienne, parce que vous êtes une femme, et même les élèves supposés chrétiennes, femmes, vous n'avez pas le droit de parler de telles choses, par exemple, relatives à l'islam, etc. Elle a très très bien réagi. D'une part, elle a refusé de dire quelle était sa confession, son orientation. Ici, je suis votre professeur d'histoire. Et mon rôle, c'est de vous informer sur le déroulement des différentes expressions du christianisme, de l'islam, du judaïsme, d'autres religions, dans les périodes que nous étudions. Et à la fin, les élèves avaient bien compris ce devoir de neutralité et l'importance de la déontologie de l'enseignant. Ça, c'est un grand défi, je le dis entre parenthèses, au niveau de la formation. Déontologie, vocabulaire aussi, pour apprendre à parler des faits religieux en connaissance de cause et en prenant en compte, y compris qu'il s'agit de vécu religieux, c'est pas simplement une approche des religions à travers leurs traces culturelles. J'ai tenu d'ailleurs dans ce livre à dire que, bon, évidemment, l'expression « fait religieux », comme avait dit Régis Debray, elle est de bonne diplomatie. On peut peut-être la recevoir comme une approche assez restrictive, un peu positiviste, mais il s'agit aussi de prendre en compte le fait que les religions sont vécues, qu'elles correspondent à des sensibilités, à des mises en forme symboliques de l'existence, et que ça fait partie du devoir du professeur d'expliquer cela.
Donc vous voulez dire qu'il y a une demande, c'est ça ce que révèle votre enquête, il y a une demande de la part des élèves de la classe d'âge que vous avez étudiée, donc 14-16 ans, donc des jeunes, une demande d'information, de compréhension, de connaissance, et deuxièmement, une importance de ces faits religieux et ou de la religion dans leur vie.
Absolument.
Alors ça vous a étonné, ça vous a surpris, ça vous paraît éloigné de l'idée que l'on se fait de la religion et des jeunes, ou c'est tout à fait conforme au rapport que les jeunes européens entretiennent avec la religion ?
Mais ça me semble assez conforme au rapport que les jeunes Européens entretiennent avec la religion, dans la mesure où il y a à la fois distanciation par rapport aux religieux institutionnels, par rapport aux religieux comme prescriptif, comme instance de normativité. Et là, on sent aussi la révolte un peu de l'adolescence. Mais en même temps, intérêt, voire fascination pour le phénomène. Et donc, le fait que les élèves approuvent une démarche documentée, critique au sens de l'approche documentée, de la part d'un professeur respectant la neutralité de son mandat de professeur, c'est vraiment extrêmement encourageant. Alors, en même temps, on a constaté que dans les réponses des élèves, en fait, hors de la vie scolaire, ils fréquentent plutôt des co-religionnaires, alors il y a aussi des dimensions sociales là-dedans, et que c'est surtout à l'école, en fin de compte, qu'ils sont confrontés à la pluralité des religions et des options à travers le fait qu'un petit camarade, tout d'un coup, leur dit « Eh ben moi, je vais faire le ramadan, etc. Bon. » Une autre chose qui nous a frappé, c'est chez les jeunes, mais ça, après tout, c'est pas tellement étonnant, une relative islamisation de la représentation de la religion. On sait très bien l'expression qui définit le carême comme le ramadan des chrétiens, mais là, ça nous renvoie au fait que dans l'espace public, on parle plus des pratiques musulmanes parce qu'elles soulèvent toutes sortes d'interrogations que les pratiques chrétiennes qui sont plus enfouies, et donc une façon de percevoir la religion à travers le débat public, le débat médiatique, également à travers aussi les conflits du Proche-Orient, dans certains collèges de la banlieue où il y a à la fois élèves musulmans, élèves juifs. Donc, faut pas non plus avoir une vue trop irénique de la situation des élèves. Ils approuvent une approche neutre et documentée des religions à l'école, mais ça peut être facteur de tension dans les relations entre les jeunes.
Alors justement, je voudrais que nous terminions là-dessus. Vous avez donc dans l'équipe que vous avez dirigée toute une partie sur les musulmans, les juifs et les catholiques, donc les différents enseignements ou les différents points de vue des jeunes religieux vis-à-vis de cela. Et apparaît, et je voudrais que vous nous donniez plus de perspectives là-dedans, apparaît deux éléments qui m'ont semblé intéressants. Le premier, c'est du côté musulman, donc des jeunes élèves musulmans. Il y a, dites-vous, dans le chapitre que vous y consacrez, une forme de contestation de l'enseignement du fait religieux et de l'histoire. Il y a des remarques qui sont faites, là, auprès des professeurs, qui disent « c'est un truc de français, un truc de chrétien ». Et donc, Est-ce que, de ce point de vue-là, et je voudrais que vous le mettiez un peu en perspective, est-ce qu'il y a justement là une difficulté pour des jeunes musulmans de reconnaître un enseignement du fait religieux par des professeurs qui, eux, sont neutres par définition, et donc considérant qu'on ne peut pas parler de religion quand on n'est pas soi-même religieux. Ça, c'est le premier point. Puis après, on viendra, si vous voulez, sur les éléments relatifs aux jeunes juifs.
La difficulté est réelle et l'enjeu, c'est de faire comprendre aux élèves que l'on peut parler valablement du religieux et d'une religion particulière sans en être. Parce qu'on est dans un autre registre. Et ça, il faut l'expliquer, le faire accepter, et surtout que ça ne soit pas confondu avec une approche irrévérencieuse, profanatrice du religieux. Autrement dit, et ça c'est un formidable défi pédagogique pour le professeur, qu'il en parle de façon documentée et respectueuse, et qu'il ait l'autorité pour le faire. Et là, effectivement, il y a quelquefois certaines difficultés si l'élève répond « Ah, mais moi, l'imam a dit ceci, vous n'avez pas le droit de dire cela ».
De votre point de vue, est-ce que cette contestation musulmane, pour le dire simplement, elle est générale, fréquente, marginale? Vous voyez, est-ce que c'est un phénomène large ou c'est un phénomène ponctuel que vous relevez?
Je ne voudrais pas trop généraliser, mais c'est un fait avéré. Mais là, on est plutôt dans des observations qualitatives que quantitatives. Mais il y a aussi des élèves musulmans qui sont même rassurés lorsque le professeur développe une approche objective et qu'il démontre qu'il connaît un certain nombre de choses et surtout qu'il explique correctement, avec toute la pédagogie nécessaire selon l'âge, l'esprit de la démarche. Et ça, c'est extrêmement important pour simplement la paix dans les classes. Et donc là, l'erreur que font encore un certain nombre de professeurs, ça serait par exemple de dire, bon, s'agissant de l'islam, je vais demander à Mohamed de nous expliquer qu'est-ce que l'islam. D'une part, c'est assigner un élève à sa religion, et ce n'est pas parce que l'élève Mohamed est musulman qu'il est très informé sur l'islam comme religion, son histoire, sa théologie, etc. Donc là, ça demande un réglage vraiment de l'attitude de l'enseignant et de sa pédagogie. De là, l'immense importance de la question de la formation.
Alors, terminons juste sur cet enseignement privé juif. Donc, il y a tout un chapitre tout à fait passionnant sur ce sujet-là.
De Joël Alouche Benayoun.
Qui dit deux choses en particulier. La première, c'est qu'il y a, et c'est un fait inédit, plus de petits enfants juifs qui sont dans le privé, de l'ordre de 60%, que dans l'école publique. 60% se divisant en deux, entre école privée juive et école privée catholique. Et 40% qui sont dans l'école publique. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dit-elle, c'est une montée en puissance forte des écoles privées juives qui sont extrêmement confessionnelles. Enfin, dans ces écoles-là, dit-elle, 92% des élèves croient en Dieu, alors que dans les écoles catholiques, ils ne sont que 34%. Alors, est-ce que ça suppose qu'il y a, et c'est la question que vous posez à la fin, question, est-ce que maintenant, les écoles juives ne sont pas là pour transformer des petits Français en petits juifs? C'est la dernière question qui est posée à la fin de ce chapitre.
Il y a une singularité de la situation des écoles juives avec ce constat que la majorité des enfants juifs en France aujourd'hui est scolarisée en dehors de l'enseignement public. Et alors, ça pose question. Certains interlocuteurs juifs disent, mais c'est aussi une réponse à la montée de l'antisémitisme, que les élèves juifs se sentiraient plus protégés dans leur identité dans des écoles juives que dans des écoles publiques. Donc ça, c'est une véritable interpellation, car l'école publique doit pouvoir accueillir des enfants juifs comme d'autres religions sans problème et sans qu'ils soient dérangés, stigmatisés dans leur identité. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous le disiez, il y a des écoles juives sous contrat qui ont le droit, comme le système de la loi Michel Debray le prévoit, de garder leur caractère propre, mais avec un certain nombre d'obligations qui est d'accueillir tous les enfants, quelle que soit leur confession. Or, ce n'est pas un scoop, c'est un fait. Les écoles juives sous contrat sont fréquentées par une très très grande majorité d'enfants juifs. Alors là, il y a un peu une contrainte, je dirais, du système, puisque normalement, le contrat d'association prévoit l'accueil de tous les enfants et que s'il y a des cours spécifiques, c'est aussi une option. Les écoles catholiques sous contrat accueillent des enfants musulmans, des enfants juifs, des enfants athées, et il peut y avoir un cours de culture religieuse qui est obligatoire, mais s'il y a une catéchèse, une aumônerie, c'est optionnel, ce qui ne les empêche pas de garder leur caractère propre. Là, dans le cadre de l'enseignement juif, c'est vrai que, mais ça nous renvoie à certaines dimensions du fait juif, qui se traduit aussi par des prescriptions alimentaires, des prescriptions vestimentaires, par un autre calendrier de fêtes. Et donc, si tout l'établissement scolaire est au diapason du calendrier des pratiques juives, bien évidemment, un enfant non juif, peut-être ne s'y sentira pas totalement à l'aise. Donc, vous voyez, ça s'explique, mais le fait est, et pose évidemment question. Et donc, ça nous renvoie, je crois, à ce qui pourrait se passer en matière d'école musulmane, car il y a déjà une école musulmane, le lycée Avicenne à Lille, qui est sous contrat d'association. Il y en aura d'autres. Les résistances qui ont pu se manifester sont, à mon sens, malvenues. C'est un droit aussi pour les musulmans de développer des écoles privées sous contrat d'association avec l'État, avec le respect des obligations que cela implique. Mais il y a des écoles juives, il y a des écoles catholiques, il y a quelques écoles protestantes. Pourquoi il n'y aurait pas aussi des écoles musulmanes ? Mais si ça prenait la proportion que ça a prise à propos des enfants juifs, on pourrait se poser la question. Dans ce cas-là, l'école de la République n'est-elle plus capable d'accueillir des enfants qui, tout en se reconnaissant dans la laïcité, souhaitant bénéficier de tout ce qu'apporte l'école publique, en même temps ne renoncent pas à un minimum de visibilité de leur identification religieuse et de leur pratique religieuse. Donc ça renvoie une question à l'école publique.
Et bien, je renvoie tous nos auditeurs donc, à ce très beau livre qui est dirigé donc, par Céline Béraud et Jean-Paul Willem, que je remercie d'être venus jusqu'à nous pour nous expliquer tout cela. Et ce livre donc, a l'avantage, un, de reprendre effectivement cette enquête européenne et la partie française de cette enquête européenne d'une part, et deuxièmement, de brosser, comme nous avons essayé de le faire, un, le portrait de l'ensemble en Europe de l'enseignement de la religion dans les écoles d'une part, et deuxièmement, en plus donc du sondage ou de cette enquête, tout ce qui est relatif à la particularité des différents enseignements dans l'école catholique, dans l'école juive, ce qui donne des éclairages ponctuels et tout à fait passionnants. Donc je renvoie nos auditeurs à ce livre, donc Les jeunes, l'école et la religion, publié donc en 2009 chez Bayard. Jean-Paul Willem, merci.
Merci beaucoup.